Bonjour à tous. Alexandre Moiti, donc je vais introduire cette table ronde. Alors je ne vais pas faire comme David Moniaux hier qui a conclu, moi je vais donc faire une petite introduction là. Déjà en tant qu'ancien administrateur de l'association Wikimedia France et toujours membre, et puis avec certains autres dossiers que j'ai connus. Donc mon premier point, il sera un point militant en tant que membre de l'association. Je crois que ce qu'on va voir aujourd'hui, là, ce partenariat BNF Wikisource, on vient de loin. Hein, c'est-à-dire que il y a encore 3-4 ans, c'était pas des choses tout à fait envisageables. Et c'est vrai que les choses évoluent. Nous allons le voir. Mais il y a 3-4 ans, on en était loin. On en était une époque où il y avait un dénigrement de Wikipédia. Quand on parlait à l'ancien direction de la Bibliothèque nationale de France, parler de Wikipédia, c'était pire que parler de Google. C'était Oresco Reference, hein, pour reprendre les citations latines chères à l'ancien président de la BNF. Les choses ont changé et je crois que, les choses changent progressivement, disons, voilà. Je crois que c'est un peu à nous tous, hein, de faire partager à d'autres, à tout notre environnement, le fait que Wikipédia, c'est vraiment un projet humaniste, de confiance mutuelle. Hein, et moi, en tout cas, c'est dans cette optique que j'ai rejoint cette association. Et que je suis contributeur. Mon deuxième point concerne l'iconographie publique. On en a parlé hier de manière tout à fait intéressante, hein, hier après-midi. Un certain nombre d'exemples ont été donnés. J'en ajouterai un autre sur des choses qui vont pas dans l'iconographie publique. Hein, la page Wikipédia francophone de Gaulle est illustré par une image de la Bundesarchiv. Bon, on appréciera du point de vue historique le gap, le hiatus là. Mais d'autres exemples ont été donnés hier par David Moniaux, mais certains sont particulièrement frappants. Moi, j'en ai eu hier comme leçon, enfin comme enseignement plutôt. Il me semble que les institutions publiques nationales sont en retard par rapport à celles des collectivités locales, hein, par rapport aux collectivités locales plutôt. Donc on a eu des exposés très intéressants de Brest et de Rennes, et j'ai particulièrement apprécié l'analyse juridique et des contenus qui étaient faites à travers ces exposés. Et les institutions publiques nationales sont en retard par rapport à des institutions régionales, on l'a vu avec le partenariat Muséum de Toulouse. Hein, et on pourrait même dire peut-être, hein, que les institutions culturelles sont un peu en retard par rapport aux institutions scientifiques. Hein, c'est l'impression que j'ai. Et je crois que Monsieur Henri Lavollée hier nous rappelait que les enjeux ne sont pas toujours bien compris par les opérateurs culturels. L'enjeu, il est pourtant clair, hein, et Monsieur Briand de Brest nous l'a rappelé hier, il l'a dit au cours d'une réponse à une question, et j'ai trouvé que c'était une bonne synthèse. Hein. D'un côté, des institutions anglo-saxonnes, donc la NASA, la Library of Congress, le Smithsonian, Bundesarchiv, qui misent sur la dissémination, hein, pour assurer une certaine popularité sur Internet, leur renommée sur Internet, hein, avec des liens depuis les pages Wikipédia, et d'autre part des institutions françaises qui cherchent à gagner quelques sous, voilà, quelques écus, quelques copecs, je sais pas, dans un mode de financement public d'ailleurs du monde culturel qui pose question, hein, j'y reviendrai sur les aspects partenariat public-privé parfois. Donc qu'est-ce que ça représente, ces budgets, ces recettes espérées pour des institutions culturelles par rapport à leur budget public? Je crois que ça nous interpelle tous en tant que citoyens de voir bon, la façon dont ces institutions culturelles françaises résonnent à l'heure actuelle en matière d'iconographie publique. Je crois qu'on peut leur expliquer aussi, et c'est notre devoir, enfin notre rôle à tous, qu'ils sont pas forcés de mettre tous leurs fonds sur Internet. La Bundesarchiv met pas tous ses fonds sur Internet. Qu'ils peuvent mettre, donc ils peuvent garder une partie de leurs fonds. Ils peuvent les mettre de manière mettre un fonds donné, mettre pas tout ce qu'ils ont. Ils peuvent le mettre dans une résolution qui n'est pas la résolution commerciale. Bon, évidemment, nous, côté Wikimedia, on préfère ça, la résolution maximale. Mais enfin, je trouve que déjà, il y aurait une numérisation, une résolution minimale, ça serait pas mal. Et je pense que c'est, enfin, vraiment pour nous tous, c'est un enjeu là, parce que je pense que les pages, moi au départ, les pages Wikipédia, j'étais surtout accroché à ça, et je pense que la qualité des pages Wikipédia dépend d'une bonne iconographie. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose que l'iconographie publique, c'est un combat qui va, l'utilisation de l'iconographie publique dans les va avec notre combat pour Wikipédia. Mon troisième et dernier point, ça sera, alors là, en tant qu'ancien secrétaire général du projet Bibliothèque numérique européenne, et peut-être pour introduire le débat, que j'espère qu'on sera riche avec la salle, là, puisqu'on a un peu plus de temps que prévu. Et là, je voudrais quand même tirer quelques enseignements même si on n'en parlera pas forcément, mais ça a quand même pas mal agité les différents landerneaux européens sur la Europeana, hein, donc cette fameuse bibliothèque numérique européenne qui avait été tant vantée politiquement. Bon. Moi, je suis en train d'analyser ça, écrit des articles là-dessus. La montagne accouche d'une souris, en quelque sorte, et ça peut, faut que ça peut nous apporter des enseignements aussi dans notre table ronde et puis pour notre réflexion. Hein. Et je vais essayer d'en tirer un ou deux comme ça, deux ou trois plutôt. Donc d'abord, c'est un Europeana, c'est un simple portail. Et puis ça accumule, c'est à la fois des manuscrits, des photos, des archives, des imprimés, donc c'est un portail où moi j'appelle ça une médiathèque, donc un peu bling bling avec beaucoup de choses un peu partout. Et bon, je me demande. Quel outil de travail ça va être finalement, puisqu'on est tout de suite, c'est jamais qu'un portail, on est tout de suite reporté vers les sites des différentes bibliothèques numériques, enfin les quelques rares qui y participent, et chaque fois avec une visualisation différente pour l'internaute, enfin une visualisation, c'est un logiciel de visualisation différent, donc il n'y a rien de commun, quoi. Au départ, le projet, ça aurait dû être quelque chose de commun, une visualisation commune à tout ça. Et donc le fait qu'il y ait plein de documents aussi comme ça, je l'oppose à une certaine sobriété qu'on peut trouver et que l'internaute surtout va chercher sur la page d'accueil Google, sur la page d'accueil Google Books. Là, c'est sobriété maximale. Et je pense que nous, ce qu'on fait dans nos projets Wikimedia en général, on sait où on va chercher les choses, quoi. Les images, c'est dans Commons, les livres, c'est dans Wikisource. Il n'y a pas ce mélange qu'on peut trouver sur Europeana et qui une espèce de melting pot d'imprimés, de manuscrits, de photos. Je crois que aussi bien pour les chercheurs que pour les internautes, finalement, faut savoir ce qu'on va chercher exactement. Voilà. Une deuxième leçon peut-être de cette affaire, c'est que moi je me méfie beaucoup des projets top-down, quoi. C'était vraiment un projet Europeana décrété en haut, au plus haut niveau de la République d'ailleurs. J'étais très étonné, moi j'avais des réunions à l'Élysée une fois par mois où on disait ce qu'il fallait faire sur le portail, enfin si vous voulez des trucs tout à fait étonnants, quoi, quand on voit le résultat, c'est Il y avait même l'idée, il faudrait que dans Europeana, les contributeurs puissent modifier les contenus, enfin ce qu'on est en train de faire, nous, à notre niveau ici, et concrètement, vous allez le voir. Donc ces projets définis par en haut, et quand je dis par en haut, c'est pas seulement politique, c'est une approche, on dit, ah ben voilà, on va créer quelque chose ex nihilo, alors que finalement, une fédération des bibliothèques numériques existantes eût été dans une visualisation commune, eût été quelque chose de tout à fait intéressant. Il m'a semblé hier que je retrouvais ce même travers, hier après-midi, bon, malgré la bonne volonté de l'intervenant de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'État, et sans doute son discours un peu adapté par rapport à l'assistance, il m'a semblé retrouver un petit peu la même approche, un peu top-down, c'est-à-dire que on veut le bien des administrations, on va leur dire comment il faut faire parce qu'on sait comment il faut faire. Voilà. Il m'a semblé retrouver ça hier, mais je me trompe peut-être. En tout état de cause, top-down, c'est pas un reproche qui peut nous être adressé à nous, contributeurs, puisque s'il y a quelque chose qui est bien bottom-up, c'est bien les projets qui, dépendants de Wikimedia, Wikipédia, Wikicommons, je dis pas que tous les projets publics doivent être comme ça, mais enfin, entre des projets décidés et managés de manière abracadabrantesque au plus haut niveau et des projets totalement contributifs, il y a peut-être un juste milieu. Enfin, le troisième travers, peut-être dans les leçons, des enseignements que je tire d'Europeana, ça nous permettra d'introduire peut-être le sujet aussi, comme le reste, l'utilisation un peu particulière, très particulière même de la notion de partenariat, enfin l'intervention du privé dans le monde culturel. Moi, c'est quelque chose qu'on peut regarder dans d'autres domaines culturels, le cinéma, etc. Enfin, dans le domaine qui nous intéresse ici, certains exemples m'étonnent. Je vois ça, par exemple, dans tout ce qui concerne le grand emprunt à l'heure actuelle. Je suis assez étonné. J'en ai encore eu confirmation cette semaine-là. Pour grand emprunt et numérisation, il faut un retour économique. Qu'est-ce que c'est que le retour économique dans la numérisation du patrimoine culturel ou scientifique? Je pose la question, quoi. Je comprends l'idée qui est, il faut que ça bénéficie à des industries culturelles, j'aime pas faire ça, mais enfin bon, je le fais, des industries culturelles, mais je vois pas très bien, enfin, par rapport à l'objectif principal qui est la mise à disposition sur le web de ressources patrimoniales, culturelles et scientifiques, l'aspect retour sur investissement me paraît vraiment un aspect très très connexe, et je comprends pas très bien pourquoi il est mis en avant comme ça, voilà. Le deuxième point sur cet aspect intermédiaire, mention du privé dans la sphère publique culturelle, il est, et ce sera peut-être une pierre dans votre jardin, Arnaud Beaufort, là, mais c'est la façon dont les éditeurs français interviennent dans le portail Gallica. Alors, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, les taxes sur CD ont été augmentées d'un certain pourcentage, mais enfin qui fait 10 millions d'euros en plus, et ça bénéficie à des éditeurs pour mettre en ligne commencer à faire des bibliothèques numériques. Et je trouve que ça donne en tout cas sur Gallica quelque chose d'assez particulier, qui est qu'on peut trouver des livres Gallimard, et puis qu'on se retrouve de nouveau sur le portail Gallimard.